Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Comment font certains pour être si tôt au sommet de leur art? C'est le cas de Pierre Ninet, dont la grâce adolescente a très vite été infusée d'une force, d'une maîtrise et d'un brio rare. Et c'est le cas d'Anaïs de Moustier, dont la juvénilité ne parvient pas à cacher la profondeur et l'émotion à fleur de peau. Tous deux portent un film qui va faire date, Sauver ou périr, réalisé par Frédéric Tellier. Un film qui nous raconte en fait une histoire presque universelle, puisque nous sommes tous des naufragés de la vie. Voilà, c'est celle d'un homme exigeant et fort, qui avait tout, qui perd tout, et qui va se reconstruire.
Europe 1.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre Ninet, il y a une aura de précocité virtuose autour de vous. À 21 ans, vous êtes devenu le plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française, et de tous ceux qui ont remporté un César du meilleur acteur, ben vous êtes le plus jeune. C'était pour Yves Saint-Laurent en 2015. Mais à force d'être précoce, quand a-t-on le sentiment de ne plus l'être?
Ça va pas tarder à s'arrêter là. J'ai 29 ans, je pense que c'est ma dernière année où j'entends des mots aussi élogieux que ce genre de choses. Ça va s'arrêter. Là, ça va s'arrêter et ça va être douloureux parce qu'on s'y habitue.
Non, mais
moi, les choses se sont faites progressivement. Les gens ont toujours l'impression que ça s'est fait d'un coup très vite. Moi, j'ai fait beaucoup de petits rôles au théâtre, beaucoup de petits rôles au cinéma, beaucoup de petits rôles à la télé avant d'avoir un rôle principal et je suis content. J'ai trouvé ça très sain que ça se passe dans cet ordre-là.
Alors, vous aussi, Anaïs de Moustier, vous avez abordé ce métier à un âge où, en théorie, on ne fait qu'en rêver. Vous aviez 14 ans lorsque vous avez vécu l'aventure de votre premier film sous la direction de Michael Haneke, en incarnant la fille d'Isabelle Huppert. On apprend la vie en accéléré quand on commence si tôt à faire du cinéma.
Oui, pour moi, ça a été une espèce de porte vers la liberté, vers tout un tas de choses. J'étais très contente aussi de quitter le collège et de fréquenter des gens plus âgés. Je me souviens que j'avais adoré cette équipe de tournage et ces gens que j'ai rencontrés qui avaient 50, 40 ans. Toutes ces
vieillards.
Différences en fait, et puis ces parcours qui viennent, ces gens qui viennent de partout, c'était très très riche.
Alors Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, vous voilà réunis dans un film qui nous interroge sur la notion d'héroïsme, de résilience, de quête d'identité, puisque Sauver ou périr, qui est d'ailleurs la devise des pompiers de Paris, nous conte l'histoire d'un jeune pompier atrocement brûlé qui doit réapprendre à vivre en faisant le deuil de ce qu'il était. En France, il y a 247 000 pompiers, dont 40 600 sont des pompiers professionnels. Pierre Ninet, vous êtes forcément interrogé sur la nature de ce courage si exceptionnel. Par quel héroïsme, en fait, vertigineux faut-il être, selon vous, habité pour combattre le feu? Et dans une autre vie, est-ce que vous auriez été capable de le faire?
Moi, j'ai pas eu cette vocation et je pense que c'est vraiment un métier de vocation. Il faut sentir ça dans son ADN, dans ses tripes, depuis qu'on est petit pour faire ce métier bien, parce que c'est un métier fatigant, c'est un métier difficile. Au-delà du courage et du sens du danger, il faut quand même avoir beaucoup de résistance aussi à ce qu'on voit, une certaine qualité pour arriver à faire la part des choses dans les choses très difficiles, la détresse humaine avec laquelle qu'on a en face des yeux toute la journée et souvent depuis qu'on est jeune, parce que les pompiers sont jeunes souvent quand même, les pompiers de Paris notamment.
Ouais.
Moi, je sais pas si j'aurais fait un bon pompier, mais il faut ce qui est marquant, c'est ce travail autour de l'empathie, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est très à l'encontre de notre société et magnifique en même temps chez les pompiers, quoi.
Ouais. Alors pour préparer le tournage, vous avez passé plusieurs mois en immersion avec les pompiers de Paris, dont la plupart effectivement sont très très jeunes gens. Ce qui vous a le plus surpris, le plus impressionné, c'est quoi?
Le mélange de discrétion et d'efficacité quand même. L'efficience et la discrétion, c'est deux grandes valeurs qu'ils ont et que je trouve très belles et qui manient très bien. Et puis leur grande maturité, alors que c'est des gens très jeunes, on oublie ça quand ils viennent nous sauver la vie, on oublie tout parce qu'on est généralement sous le coup du stress ou du choc. Et en fait, c'est des gens extrêmement jeunes avec une grande sagesse de la vie, quoi, d'une certaine manière.
Avant d'affronter le feu, les pompiers débutent par des interventions sur les accidents de la route, hein, les suicides, les crises cardiaques. Le feu, c'est l'épreuve ultime. Et c'est justement sur son premier feu que votre personnage va se trouver piégé alors qu'il veut aller sauver des camarades malgré le rappel de son supérieur. Être filmé et jouer au milieu des flammes, ça doit être un exercice très 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 particulier.
Oui, alors oui, clairement, c'était la première fois que je faisais ça. C'était une séquence en plus, cette grande séquence d'incendie que le réalisateur avait voulu très impressionnante. Donc avec beaucoup de pompiers qui nous encadraient, qui nous conseillaient. Beaucoup de vrais feux, très peu d'effets spéciaux. Une doublure pour un plan, sinon j'ai vraiment insisté pour tout faire moi-même parce que j'ai adoré cette expérience. C'était très physique pendant 5 jours. Anaïs aussi est venue, puisque le personnage a à un moment une vision de sa femme. Voilà, on va pas en dire trop, mais dans les flammes aussi. Et,
et malgré c'était... toute l'équipe technique qui vous entourait, il vous est arrivé pendant le tournage d'avoir peur?
Pas des flammes, parce que j'ai très confiance dans le... À l'image de la solidarité des pompiers, quand même, le cinéma, même si c'est bien plus dérisoire, il y a une solidarité et un grand savoir-faire de chaque personne sur le plateau. J'avais une confiance totale dans les cascadeurs qui avaient prévu les feux et les explosions et j'étais totalement en confiance.
Selon vous, Anaïs de Moustier, les épouses de pompiers sont sereines ou vivent dans la terreur? Parce qu'elles me font un peu penser aux femmes de soldats.
Exactement, vous avez raison, et ça me fait, moi aussi ça m'a fait penser à ça. Non, je pense qu'elles sont, elles sont pas complètement sereines, elles font des concessions, souvent, surtout celles qui vivent en caserne, comme c'est le cas de mon personnage dans le film. C'est une vie spéciale, la vie en caserne, avec l'alarme qui retentit à chaque fois qu'il y a une intervention. C'est un, voilà, le stress est présent. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un petit déni de la part de certains pompiers qui vont travailler en ayant quand même cette espèce de peur un peu cachée quelque part.
Alors, les grands brûlés, parce que c'est effectivement ce qui va hélas arriver aux héros de Sauver ou Périr, les grands brûlés survivent par le mental. On va l'évoquer tout à l'heure, parce que vraiment la deuxième partie du film est d'une intensité qui donne presque le vertige. Tous les films ne transforment pas les acteurs qui les portent. Celui-là, assurez-vous, Pierre Ninet, il vous a transformé.
Oui, 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 complètement. Ouais. Je pense qu'on était tous les acteurs, Chloé Stéphanie, Vincent Rottier, Samy Boisgila, on était tous également bouleversés par les destins qu'on racontait. Tout simplement des hommes derrière des fonctions, souvent, hein, quand même l'homme derrière le pompier, le vrai héros humain qui se cache aussi derrière le héros plus cliché du pompier, l'héroïne qui se cache derrière une infirmière, le héros qui se cache derrière la conjointe, la femme d'un pompier qui d'un coup va devoir aussi, après un accident, réévaluer, réinventer aussi toute sa vie, re-rencontrer l'homme de sa vie, redéfinir tout ça. Donc des hommes et des femmes derrière des fonctions, tout ça c'est évidemment bouleversant. Et puis le fait de voir que l'humain a quand même tellement de ressources, quoi, qu'on arrive quand même à surpasser, à dépasser beaucoup de petites et de grandes choses, de petites et de grandes épreuves de la vie, on a tous ça en nous.
Mais tout ça, vous l'aviez immédiatement capté à la lecture du scénario, ou le tournage vous a emmené encore plus loin que ce que vous imaginiez?
Le tournage, ouais, m'a définitivement emmené beaucoup plus loin. Je ne m'attendais pas à être aussi ému par le film, par les scènes, par l'échange avec les acteurs, les scènes avec Anaïs. C'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué de ma jeune carrière, mais c'est sûr, ouais.
Europe 1. C'est en compagnie de Pierre Ninet et d'Anaïs de Moustier qu'on voyage cet après-midi. Alors, on fait une très très courte pause, on les retrouve immédiatement.
Jusqu'à 16h, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit aujourd'hui deux comédiens, Pierre Ninet et Anaïs de Moustier. Ils se donnent la réplique dans un film dont Europe 1 est partenaire.
Ne ratez pas Sauver ou Périr en salle depuis mercredi avec à l'affiche Pierre Ninet et Anaïs de Moustier. Vous en sortirez bouleversé mais plus fort, comme grandi. Alors Pierre Ninet, est-ce que vous vous souvenez de cette représentation au cours de laquelle François Morel, sur scène, s'est mis à s'adresser à vous, jeune spectateur, j'ai envie de dire polisson, de tout juste 7 ans, qui commentait à haute voix le spectacle. Ce soir-là, ce fut presque un signe, un appel vers la scène.
Alors, ça tombe super bien que vous m'en parliez,
parce que...
Il y a du nouveau sur cette histoire.
Dites
parce que j'ai raconté ça, je ne sais plus quand, et depuis, on m'en a beaucoup parlé.
Et elle est fausse.
Et c'est une fake news. Mais moi-même, j'ai défendu bec et ongles l'idée que c'était vrai, j'étais persuadé, donc je l'ai raconté très volontiers dans plein d'endroits.
Comment pouvez-vous dire « j'ai défendu cette histoire » comme si elle était vraie alors que vous ne l'avez pas vécue?
Parce que je croyais qu'elle était vraie. Parce que j'étais enfant et que je pensais que c'était François Morel. Mais ça n'était pas François Morel, c'était une autre pièce.
Mais elle n'est pas tout à fait fausse. Donc.
Non, elle n'est pas tout à fait fausse. J'ai
l'acteur
vécu ça avec un acteur et j'ai aussi vu...
s'est adressé à vous.
Oui, oui, complètement. Et ça, c'était une expérience de vie où j'étais, voilà, aucun filtre. T'es enfant dans une salle de théâtre, j'avais envie de parler avec l'acteur. Je me suis mis à parler devant 800 personnes avec l'acteur. Il m'a répondu, il a improvisé avec moi. Et là, je me suis dit, ok, c'est le meilleur métier du monde, c'est extraordinaire, c'est un super pouvoir. Et en plus, les gens se marraient à ce qu'il disait. Je me suis dit, ok, c'est génial.
Donc une vocation peut démarrer ainsi.
Oui. Mais en fait, moi, ce que j'aimais, ce que je voulais faire du théâtre pour les coulisses, moi, à la base. C'est très bizarre. C'est que j'adorais l'espèce d'endroit un peu bizarre entre la fiction et la réalité, juste avant de monter sur scène. Donc je pense que ça m'a fasciné ce moment où il pouvait sortir de son rôle, me parler tout en restant un peu dans son rôle. Cette frontière-là, elle m'excitait vachement.
Bon, mais en même temps, j'imagine qu'avec un père qui enseigne le cinéma documentaire à la Fémis, à Normale Sup et à Sciences Po, puis avec une maman auteure et plasticienne, bah, il devait être difficile d'échapper à une ambition artistique, non?
Oui, je pense que j'ai baigné vraiment là-dedans. Et ceci dit, j'ai vraiment ma sœur ne fait pas du tout un métier artistique. Voilà, elle travaille dans l'associatif, elle fait des choses absolument magnifiques, mais elle est pas dans l'artistique. Donc, comme quoi, on n'est pas forcément lié à ça. Mais ça aide énormément d'avoir des parents qui n'ont pas peur déjà.
Mais en tout cas, bon, alors le théâtre, c'est donc devenu l'obsession de votre adolescence. Elle vous a plus lâché cette obsession. À 17 ans, vous débarquez à Moscou pour jouer chez Vladimir Pankov. Puis, vous embrayez avec le cours Florent et le conservatoire. Alors, au sujet du conservatoire, j'ai appris que, vous allez nous dire si c'est fake news ou si c'est vrai, il paraît que lorsque vous avez passé un monologue de Rémi DeVos au conservatoire, donc parmi les membres du jury, il y avait un certain Guillaume Gallienne.
Mais oui.
Voilà, qui ignorait bien sûr, comme vous, que vous retrouveriez donc un an plus tard à la Comédie Française et puis cinq ans plus tard sur le biopic de Saint-Laurent. Et Guillaume Gallienne, ce jour-là, a été un juré très encourageant pour le jeune acteur complètement fébrile que
oui,
vous étiez.
Totalement. Il rigolait beaucoup. Donc, quand on est dans le grand théâtre du Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris, entendre le rire d'un des jurys, c'est, vous imaginez, c'est énorme, quoi. Ça porte votre scène complètement, surtout que moi, ça se voulait être drôle. Et heureusement, il était là et ça m'a vraiment boosté. Et puis j'ai passé ce tour-là, je crois, je ne sais plus si c'était le troisième tour, peut-être c'était le dernier tour. Et
il vous a envoyé les bonnes ondes.
Il m'a envoyé les bonnes ondes et cinq ans plus tard, on jouait dans un film que j'adore, Yves Saint-Laurent, ensemble.
Anaïs de Moustier, vous n'êtes pas passée par le conservatoire et Grand Texte, mais vous êtes tombée très très tôt dans la marmite du théâtre, alors que vos parents n'avaient, paraît-il, aucune connexion avec le monde artistique. Si je vous parle, par exemple, de la compagnie de la Manivelle, et des cours de théâtre à la Riandrie, à Marc-en-Barœul.
Complètement.
Quel genre d'émotion ça fait remonter en surface ?
Beaucoup de plaisir. J'étais vraiment une enfant comblée quand j'allais là-bas. C'était des cours que je prenais en plus de l'école. En fait, je me souviens que je m'exprimais et j'avais du plaisir à m'exprimer, quoi. C'est vraiment c'était libérateur pour moi. Je pense que beaucoup d'enfants devraient faire du théâtre, en fait. C'est très, très agréable.
Alors, vous aviez à peine 14 ans quand vous avez été repéré par la directrice de casting de Michael Haneke pour son film Le Temps du Loup, qu'il devait tourner en Autriche avec Isabelle Huppert dans le premier rôle. Mais bon, 14 ans, c'est l'âge du brevet, n'est-ce pas, du BEPC.
Oui.
Il paraît que la directrice de votre collège refusait catégoriquement que vous disparaissiez pendant 2 mois pour faire l'actrice. Et en fait, ce sont vos parents et votre frère aîné de 10 ans, je crois,
oui,
qui sont intervenus et qui ont été des avocats formidables.
Oui, ils m'ont laissé partir quand même. Ils se sont dit, tant pis, on verra à ton retour. Si elle veut plus de toi, on trouvera un autre collège. C'est vrai qu'elle avait refusé.
J'ai eu carrément de chance. La plupart des parents auraient
obtempéré. Ouais, ouais, c'est dramatique. Non, mais ça me fout un bourdon quand je pense à ça. Je me dis, mais il y a des destinées qui sont quand même arrêtées par la bêtise de certains directeurs d'école, quoi, parce que c'était absurde de m'empêcher de le faire. J'étais une très bonne élève. Enfin, j'avais une prof en Autriche sur le tournage qui était tous les jours en train de me suivre. Donc, si j'avais eu des parents un peu dociles, un peu inquiets surtout, ben je serais passée à côté d'une expérience fondatrice.
Qui ne vous a pas empêché d'avoir le brevet.
Complètement.
Voilà. Bon, alors Isabelle Huppert.
Haut la main
en plus. Chic. Isabelle Huppert a donc été la première actrice que vous avez pu observer dans l'exercice de son art, de très très près, sur un plateau. Cette aventure, elle a définitivement inoculé le virus, en fait, du cinéma.
Ah oui, complètement. Ouais, c'était franchement, honnêtement, avant de faire ce film, j'avais pas du tout formulé l'envie de devenir actrice, d'en faire mon métier et tout. Mais une fois que j'ai traversé ces 2 mois et demi de tournage et que je suis rentrée, j'avais qu'une envie, c'était de recommencer, c'est sûr. Ouais.
Il a fallu attendre combien de temps pour ça ?
Le tournage d'après, ça devait être à 16 ans. Peut-être j'ai dû attendre un an ou deux. Un an, peut-être.
Pierre Ninet, Anaïs de Moustier. Là, vraiment, je pose la question à tous les deux. Il y a bien évidemment la voix royale du conservatoire, mais ce métier, il s'apprend aussi sur les plateaux de cinéma.
Ah oui.
Voire il s'apprend que sur les plateaux de cinéma. Enfin, j'exagère un peu parce que moi,
ça va faire plaisir aux profs du conservatoire.
Non,
ça.
Non, bien sûr. Non, mais j'exagère dans le sens où je pense que l'art dramatique, vraiment, c'est pour moi, je le vois comme un artisanat et j'adore le voir comme ça. Et c'est un vrai métier avec de la technique et tout ça. Mais un plateau de cinéma, c'est très particulier. Donc j'exagère un peu, je force le trait, mais quand même sur un plateau de cinéma, il y a beaucoup de choses qu'on comprend que sur un plateau de cinéma. Et même dans les écoles de cinéma, j'ai l'impression que c'est difficile de faire comprendre à des jeunes réalisateurs ou des jeunes acteurs comment ça va vraiment se passer. Moi, c'est qu'au bout de 4, 5, 6, 7 tournages que j'ai commencé à choper le rythme, le jargon, les marques, dans quel ordre et le rôle de chacun.
Vous confirmez, Anaïs ?
Je confirme complètement. Ouais. C'est vrai que souvent, moi aussi, quand j'entends cours de jeu face à la caméra et tout, je suis un petit peu sceptique parce que je me rends compte que, en fait.
Oh, d'abord, on ne la regarde jamais, la caméra. Donc,
ouais, et puis
c'est
surtout,
pas un monologue, le cinéma.
Comme dit Pierre,
rarement,
c'est vraiment. Il faut essayer, je pense, de comprendre comment fonctionne la machinerie du plateau et les enjeux et Et puis surtout, chaque plateau dépend du metteur en scène qui le dirige. Donc, c'est une espèce d'intelligence humaine, en fait. J'ai l'impression qu'il faut essayer d'avoir, d'acquérir, de découvrir.
On fait une très courte pause. On retrouve tout de suite Anaïs de Moustier et Pierre Ninet.
15h23, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit avec Isabelle Morizet et ses invités.
On est très fiers à Europe 1 d'être partenaire de Sauver ou Périr, qui est en salle depuis mercredi, et vraiment qui est un film magistral porté par Pierre Ninet et Anaïs de Moustier, et réalisé par Frédéric Tellier. Et vous savez quoi ? La chance qu'on a cet après-midi, c'est de cheminer en leur compagnie. Alors Pierre Ninet, pour entrer à la Comédie Française, en principe, il faut être sorti du conservatoire avec un premier prix. Vous avez été appelé par la Comédie Française alors que vous n'étiez qu'au milieu de vos études au Conservatoire supérieur d'art dramatique. C'est rarissime, ça.
Je ne sais pas si c'est rare parce qu'en fait, pendant longtemps, on sortait premier prix effectivement du Conservatoire à Paris et puis on rentrait au Français. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Il y a quand même des gens de milieux très différents et qui ont des parcours de théâtre très, très différents. Donc non, je crois que je ne suis pas du tout une exception. Il y avait plein de gens déjà quand j'y étais.
Ça s'assouplit.
Oui, ça s'assouplit, puis ça se réinvente, ça se renouvelle. Donc il y a des parcours très différents, ce qui est top. Moi, je trouve ça génial.
En tout cas, il paraît qu'à l'époque, lorsque la grande prêtresse de la Comédie Française, Muriel Mayette, vous a téléphoné pour vous faire part de son désir de vous voir intégrer la troupe du Français, vous avez cru à un canular.
Tout à fait, ouais. J'ai vérifié les numéros deux fois, surtout que j'ai des amis comme Jonathan Cohen qui font beaucoup de canulars téléphoniques. Donc j'ai bien vérifié, puis c'était bien ça. Et donc je sentais que ma vie allait complètement basculer et changer potentiellement avec ce rendez-vous.
Alors, on vous a fait passer une audition dans cette grande maison ou même pas ?
Si, bien sûr.
Si ?
Enfin, ça dépend des gens, mais moi, elle ne me connaissait pas tant que ça. Elle n'avait pas vu de pièce avec moi, donc j'ai fait une audition, je suis venu passer un
Molière.
Mais
pourquoi vous alors ? Pourquoi vous êtes allé téléphoner ? Le bouche à oreille.
Je ne sais toujours pas.
Non, il y a un petit génie au conservatoire.
Ouais, il y avait un bon ange, un ange gardien, non ? Et puis il y a aussi... J'avais joué dans la même année avec Suliane Brahim, qui était déjà pensionnaire à la Comédie Française, qui est une actrice magnifique. Et j'avais joué avec elle justement en Russie, déjà auparavant, puis on en avait repris la pièce. Donc on avait vécu une grande aventure russe de théâtre. Et puis après, j'ai travaillé avec Michel Villermoz, qui jouait mon père dans un film. Donc les deux ont parlé de moi, je pense. Et puis Hervé Pierre aussi, avec qui j'avais travaillé. Donc voilà, je pense que des pensées positives aient circulé jusqu'au bureau de Muriel Mayette.
Directrice. Pour qu'à seulement 21 ans, vous deveniez donc le plus jeune pensionnaire de la troupe du théâtre, la plus prestigieuse au monde, qui compte d'ailleurs 63 membres. Alors, il y a eu une sorte d'introdisation. Pierre Ninet, on vous a donné une loge, il a fallu apprendre les rites et les codes secrets peut-être de la Comédie Française.
Tout à fait, exactement.
Il y a des codes secrets.
Il y a des droits, des devoirs d'un pensionnaire et puis il y a des codes secrets dont je n'aurais jamais le droit de parler de mon vivant.
Il a dit secret d'une manière telle, il m'a fusillé du regard, je ne pose pas la question. Bon, alors bien sûr, il faut être patient pour décrocher les grands rôles du répertoire et vous en avez joué de magnifiques. Vous avez été Hippolyte dans Phèdre, vous avez joué dans Le Chapeau de paille d'Italie. Mais en tout cas, il faut être patient tout court dans les coulisses de la Comédie Française quand on démarre dans cette troupe, car il paraît que votre première apparition en 2010, elle fut dans Un fil à la patte de Fedot et vous aviez une réplique. Une seule. Est-ce qu'elle est terrible, l'attente en coulisses, avant de pouvoir clamer, je crois que c'était Madame, Monsieur de Fontenay.
Oui, c'est ça la réplique. Tiens, ça m'a projeté en arrière, là, d'un coup.
vous attendiez combien de temps
réplique.
En coulisses, pour le
vrai,
dire
En vrai, j'en avais deux, trois, mais elles ressemblaient toutes plus ou moins à ça. Hein. C'était Madame, voici Monsieur, Monsieur, voici Madame, Madame, voici Monsieur. Ouais. Mais ça, c'est les 80 représentations, un truc comme ça.
Mais on fait quoi pendant toute la pièce ?
On regarde les autres.
On regarde les autres.
Moi, j'ai beaucoup regardé les autres.
Exactement.
Aussi.
Enfin, j'ai fait une pièce comme ça où je faisais la servante d'Emmanuel De Vos et je passais mon temps à la regarder en fait.
Ouais.
Je lui disais bien madame, merci madame, vous inquiétez pas madame. Et puis le reste du temps, je la regardais jouer, je la trouvais super.
Ouais.
Alors, Anaïs de Moustier, est-ce que c'était dans Angelo Tirande-Padoue,
c'est ça, exactement.
Que vous avez joué donc en 2010, alors que Pierre intégrait la troupe de la Comédie Française, vous étiez au Festival d'Avignon donc.
Oui.
Et mise en scène par Christophe Honoré, que vous avez retrouvé ensuite comme réalisateur au cinéma.
Ouais, en fait, je l'avais déjà côtoyé comme réalisateur. J'avais joué dans La Belle Personne de Christophe Honoré. Et ensuite, il m'a proposé cette pièce, effectivement. Et c'était super parce que moi, je rêvais de faire du théâtre. Et que comme j'avais justement pas fait le conservatoire ou pas fait d'école nationale, je me demandais comment c'était possible. Et puis lui m'a proposé, donc c'était vraiment une chance.
Mais alors, Anaïs de Moustier, théâtre, cinéma, cinéma, théâtre. En fait, est-ce qu'il s'agit vraiment du même métier? Et puis, quel œil préférez-vous sur vous? Celui de la caméra ou celui du public?
C'est une question éternelle, très difficile à résoudre. Est-ce que c'est le même métier ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'on peut, quand on a fait que du cinéma, faire du théâtre. Moi, je me souviens que je me disais, mais je ne vais jamais y arriver. Puis en fait, si, c'est possible. En revanche, je sais que la technique me manquait au théâtre. Enfin, je veux dire, je manquais du désordre qu'il y a sur un plateau. Moi, j'aime la caméra, vraiment. J'aime bien la technique, les micros, les câbles. J'adore qu'il y ait beaucoup de gens autour de moi collés quand on joue. L'atmosphère d'un plateau, ouais, ça me porte et ça m'a manqué. J'avais l'impression d'être toute nue sur ce grand plateau. Et après, je pense que voilà, après, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a de la technique aussi au théâtre et qu'elle est ailleurs et que le regard des spectateurs, c'est un autre regard.
Voilà.
Mais je dois dire que j'aime vraiment bien la caméra. Europe 1.
Ce sont deux acteurs éblouissants qui sont présents aujourd'hui dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On s'interrompt un bref instant. On retrouve tout de suite Pierre Ninet et Anaïs de Moustier.
15h29, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de cette conversation à trois voix autour d'un film européen. Vous écoutez, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Un peu de transcendance et beaucoup d'héroïsme dans nos vies mornes. Sauver ou périr est en salle depuis mercredi et Pierre Ninet et Anaïs de Moustier portent magistralement ce film d'exception réalisé par Frédéric Tellier. Pierre Ninet, il y a une chose qui m'intrigue. Denis Podalydès, Guillaume Gallienne et Laurent Lafitte, je vois qu'il fronce le sourcil, on lui a posé déjà bien sûr cette question, mais bon tant pis, je réitère. Tous trois donc piliers de la comédie française sont connus d'un certain public qui ne va jamais au théâtre. Et ils sont connus grâce au cinéma, grâce à leurs films. Alors, pourquoi vous qui êtes surdoués et qui avez un tel appétit d'aventure, pourquoi avez-vous renoncé à mener la même double vie que vos camarades, à la fois à la comédie française et sur les plateaux de cinéma ?
C'était une envie personnelle. Moi, j'avais fait 5 ans dans cette troupe. J'avais énormément de très beaux et bons souvenirs avec beaucoup de spectacles et j'avais envie de passer à autre chose. Et puis voilà, c'était un petit peu la fin d'un cycle pour moi, donc c'est très personnel. Et puis après, moi j'étais pensionnaire, donc on a moins de marge de manœuvre aussi quand un projet de cinéma où il faut tourner à l'étranger, où il faut du temps, quand ça nous arrive et que c'est une belle aventure qu'on a envie de faire. Quand on est pensionnaire, parfois la marge de manœuvre est réduite, alors que les trois que vous me citez sont sociétaires, en tout cas Guillaume Gallienne, Denis Podalydès, voilà, Laurent Lafitte, pas encore. Mais après, c'est vraiment des choix personnels. Moi, je vais continuer à faire du théâtre, c'est juste que j'étais content du cycle Comédie Française, c'était 5 ans, 5 belles années.
Mais ils ont été surpris aux Français lorsque vous êtes venus les voir pour leur dire « je pars ».
Ça s'est pas exactement passé comme ça. Disons qu'ils n'ont pas su me retenir non plus.
D'accord. Bon, en tout cas, vous avez joué Phèdre, le chapeau de paille d'Italie. Vous avez joué le fameux monologue d'une histoire de la comédie française où, pendant 40 minutes, vous avez habité seul la scène face au public sous les ors et les cintres du français. Comment vous avez vécu votre toute dernière représentation dans ce temple ?
C'était une très grande émotion vraiment. Je me rappellerai toujours de ce dernier salut et du premier. C'est les deux dont je me rappelle en fait. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Mais ouais, c'était une énorme émotion. Puis il y a beaucoup de gens que j'adore et que j'aime profondément dans cette troupe et que j'admire en tant qu'acteur, que je les trouve trop forts. Quoi. Donc je pense souvent à eux, mais qu'avec des bons souvenirs. Et donc ça, c'est le principal.
Et dont certains se retrouvent avec vous sur des plateaux de cinéma, j'imagine.
Oui. Oui, complètement. Bah, déjà, Benjamin Laverne, qui est à la Comédie Française, qui a joué Les Fourberies de Scapin il n'y a pas longtemps, qui est un très bon ami, un proche et un acteur que j'adore. Donc, j'espère écrire pour lui à l'avenir et j'ai déjà écrit pour lui dans la série Casting. Sébastien Poudrou, qui est un superbe acteur, qui est aussi pensionnaire aux Français. Il y en a plein que j'adore. Moi, j'étais dans la même loge que Jérémy Lopez, qui est un acteur magnifique aussi. Voilà, donc j'espère tous les retrouver. Bien sûr, oui.
En tout cas, le cinéma vous aime. Vous avez déjà décroché 4 nominations au César, dont une pour l'incarnation d'Yves Saint-Laurent. Qu'est-ce que le cinéma, jusqu'à présent, vous a fait vivre de plus fou, de plus inattendu, entre, par exemple, Plonger avec des requins pour le film L'Odyssée, où vous jouiez le fils du commandant Cousteau, et puis depuis mercredi, à l'écran, Sauver ou périr, pour lequel vous avez partagé, avant le tournage, la vie de ces héros du feu que sont les pompiers, sont plein de vies qui s'additionnent.
Ouais, c'est une grande chance. Hein. Moi, j'adore vivre des vies que j'ai pas, comprendre des gens que je suis pas. Et c'est quelque chose que je trouve très thérapeutique et assez génial. Et puis apprendre des choses à chaque film. J'ai appris à faire du chocolat, j'ai appris à faire du cheval.
Vous avez appris à faire du chocolat.
Ouais, pour un film qui s'appelait Les Émotifs Anonymes avec Benoît Poulvorde et Isabelle Carré, qui est un film que j'aime beaucoup. Moi, j'avais un peu de quasi-figuration, un rôle très secondaire. Mais j'ai appris à faire du chocolat.
Vous continuez d'en faire à la maison de temps
pas
en temps?
Pas du tout, ouais, une catastrophe. Mais par contre, j'ai des petits souvenirs, des petits restes. Donc je pourrais m'y remettre. Et puis j'ai appris à faire du cheval, j'ai appris à faire du violon, à parler l'allemand. Là, j'ai appris que la vie était précieuse avec Sauver ou Périr et que. On croit qu'il y a des petites choses de la vie qui sont en fait des grandes choses de la vie, je crois. Je crois que ce film, il parle aussi de ça, quoi, un hommage à la simplicité, au bonheur dans la simplicité et de savoir le voir et que tout n'est qu'une disposition d'esprit. C'est
ouais.
Ça.
Alors effectivement, Sauver ou Périr, c'est un film qui nous interroge sur les raisons et les conséquences de l'héroïsme, sur le sens de la souffrance et puis de la reconstruction, en abandonnant l'idée de ce qu'on a été, puisque le héros sapeur-pompier que vous êtes va se réveiller dans la vie d'un grand brûlé. Mais ce film, c'est aussi une histoire d'amour inouïe, n'est-ce pas, Anaïs de Moustier? Une histoire d'amour sans laquelle le héros perdrait son combat et puis toute notion d'espoir. En fait, vous avez, vous Anaïs, un rôle absolument essentiel dans ce film.
Oui, c'est vrai que c'est un rôle assez passionnant parce que c'est une femme qui se retrouve dans une situation très compliquée. Elle est la femme d'un héros dans la première partie du film. Elle a plein de projets avec Franck. Ils se sont vraiment, je pense, imaginé une vie très heureuse. Ils sont en pleine force de l'âge. Et puis arrive le drame. Et là, elle doit tout reconstruire, tout réinventer. Elle se retrouve face à un nouveau visage et un nouvel homme.
Et malgré elle, elle devient presque un miroir.
Exactement, il la rejette presque parce qu'il a du mal à
Il veut lui rendre sa liberté.
Ouais, et il veut lui rendre sa liberté. Et c'est une situation très compliquée parce qu'il y a des choses qui sont indicibles dans ce genre de situation. Donc elle a du mal à avouer ce qu'elle vit. Ça me passionne vraiment, moi, les gens qui sont à côté des victimes principales, les gens qui sont autour. Et elle se retrouve dans une situation très, très, très compliquée.
Alors, lorsqu'au cours d'une scène absolument poignante, vous révélez à votre mari grand brûlé que depuis son accident, vous prenez des antidépresseurs et que pourtant vous tombez, vous continuez de tomber avec lui, bon, les spectateurs sont certains que vous allez prendre la fuite, en fait. Or, ce film démontre que lorsqu'il n'y a pas de plan B, seul l'amour permet de trouver une issue, c'est ça? Votre rôle, il paraît qu'il a été réécrit après qu'il vous ait effrayé à la toute première lecture.
Le film, effectivement, y a un moment où mon personnage est obligé d'avouer l'inavouable. Et il y a donc une sorte de moment de vérité où elle annonce qu'effectivement, elle a du mal à avancer comme ça et qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir continuer à l'aider, à le soutenir et à l'aimer. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des ressources.
Pierre Ninet, il est vraiment en deux parties, ce film. Bon, la première, très physique au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et puis la deuxième, qui est infusée par, j'ai envie de dire, le temps démultiplié de l'attente et de la patience. Une espèce de vertige comme ça, une éternité immobile. Tout ça emmuré dans votre souffrance, une espèce de sarcophage de douleur. Est-ce qu'en fait, Sauver ou Périr, dans ce film, vous avez joué ce qui vous effraie le plus?
C'est une bonne question, ça. Oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Une des choses qui m'effraie le plus, c'est de plonger dans l'inconnu, mais un inconnu douloureux, évidemment. Je crois qu'on vit tous avec cette crainte-là de notre propre vulnérabilité, notre propre mortalité. Mais ce qui est magnifique, c'est que les gens qu'on a rencontrés, qui ont nourri ce film, qui l'ont inspiré, des accidentés, notamment un pompier qui a eu cet accident, qui est ressorti avec le visage changé, métamorphosé, brûlé, il a transcendé cet accident. Voilà, on a eu un témoignage de quelqu'un en fauteuil roulant qui avait vu le film l'autre jour dans une avant-première. Donc on a la chance de se rendre compte que le film touche des gens qui n'ont pas connu d'accident majeur dans leur vie, mais parce que tout le monde connaît des petites épreuves, mais des gens qui en ont connu des plus grandes, comme ce monsieur en fauteuil roulant, et qui nous a dit, moi en fait, depuis que j'ai eu cet accident, j'ai perdu beaucoup de choses, mais par contre, peut-être que je vis encore plus ou mieux qu'avant. Et je trouve ça incroyable d'arriver à dire ça et d'avoir fait ce chemin-là, c'est toujours assez magnifique, le film parle de ça.
On retrouve tout de suite Anaïs de Moustier et Pierre Ninet.
Il est 15h39, vous êtes bien sur Europe 1 et cet après-midi avec Isabelle Morizet, on parle d'un film dont on est très fiers ici, tout en retraçant le parcours de nos invités. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Ne ratez pas Sauver ou Périr, film dont Europe 1 est partenaire. Anaïs de Moustier et Pierre Ninet sont cet après-midi mes invités. Anaïs de Moustier, vous faites partie de ces actrices qui restent sur un plateau de cinéma pour regarder le tournage de scènes dans lesquelles elles ne jouent pas. On m'a dit ça. Est-ce que c'est rare, finalement, cette curiosité globale du métier qui impressionne beaucoup de metteurs en scène ?
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le film, plus que moi qui joue dans le film. Je me rends compte que souvent, je suis passionnée, grâce à ce métier, moi, par les rencontres que je fais, par les metteurs en scène, par leur vision, par... Ça me stimule vraiment beaucoup.
Par exemple, la réalisatrice Pascale Ferrand, qui vous a dirigé dans Bird People, est très impressionnée par vos remarques et puis, comme ça, des petits conseils que vous pourriez donner qui ne sont pas vraiment ceux d'une actrice, mais plutôt d'un metteur en scène. En fait, vous le ferez un jour, le grand saut. Vous réaliserez, peut-être même vous produirez, Anaïs de Moustier.
Peut-être, j'aimerais bien, ouais, peut-être. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'histoire à raconter, donc je vais attendre d'en avoir une à raconter. Mais c'est sûr que j'adorerais diriger des acteurs. Et puis, c'est vrai que j'ai des vrais points de vue sur la mise en scène. Ce serait super.
Alors, en vous écoutant un jour parler cinéma, j'ai appris que j'ai appris que pratiquement sur tous les plateaux, c'est pas le réalisateur qui est derrière la caméra et qui filme.
Les gens ignorent ça. Oui.
C'est le chef opérateur. C'est quand même absolument incroyable. C'est comme si un grand chef cuisinier ne ferait que goûter la recette au lieu de la préparer. C'est tout à fait étonnant.
Tenir la caméra, c'est vrai que c'est un des trucs, mais il y a plein de choses. Il y en a un qui tient la perche, le micro, il y en a un qui installe un projecteur, il y en a un qui pousse un travelling, la caméra sur un travelling. Il y a tout un tas de gens, et ces gens-là sont dirigés par le réalisateur.
Mais qui est l'espèce de chef d'orchestre, un peu à l'écart.
Exactement. Et il y a quelques réalisateurs qui sont en France derrière la caméra, dont un avec qui Pierre et moi avons tourné, qui est François Ozon. Et donc lui, il est derrière la caméra,
et ça
c'est génial. Moi j'ai adoré.
Ça change quoi ?
Ça change tout, il y a une sorte de proximité avec lui. Je trouve que ça, du coup, il y a une plus grande économie de parole parce qu'on le sent très présent, même pendant la prise. Puis il est engagé lui aussi pendant la prise, c'est-à-dire qu'il peut échouer au même titre que nous sur sa manière de tenir la caméra. Il est vraiment dedans, quoi. Et puis il nous voit, enfin, c'est celui qui nous voit le plus. La relation entre un chef opérateur et un acteur, souvent, elle est très forte. Et là, c'est le réalisateur, donc c'est génial.
Alors vous, Pierre Ninet, la réalisation, eh ben vous y êtes frotté avec brio, même si ce n'était pas pour un long métrage, puisque Casting, la série de sketchs que vous avez écrite et réalisée pour Canal+, a fait vraiment beaucoup parler. Mais surtout, on a découvert que le jeune premier virtuose avait en lui en fait une dose de folie et de fantaisie subversive assez inattendue.
Ah ben moi, j'adore la comédie. Hein. Moi, j'ai été bercé avec ça. Je suis passionné par le mécanisme de comédie. Je trouve que ça révèle beaucoup de choses de l'être humain. Et je crois que c'est tellement nécessaire de rire et d'avoir le décalage nécessaire sur la réalité qu'on nous impose.
Mais là, c'était un vrai lâcher-prise. Hein.
Ouais, c'était burlesque, c'était décalé, c'était de l'autodérision à 2000%. Avec Laurent Lafitte, Marion Cotillard, Denis Podalydès qui sont venus nous rendre visite aussi pour se prêter au jeu. C'était génial.
Mais vous qu'on a comparé à Gérard Philippe, donc finalement c'est normal parce que vous adorez Jim Carrey.
J'adore Jim Carrey. Je trouve que c'est vraiment un génie incompris parfois parce qu'on imagine que c'est un mec qui fait que des grimaces, mais pas du tout quand on regarde sa filmographie, Truman Show, Eternal Sunshine of a Spotless Mind de Michel Gondry. Il y a des rôles magnifiques et qui ne sont pas que de la comédie. Et puis The Mask, vraiment, je défie quiconque de faire The Mask et d'être aussi, avoir autant de charme et d'être aussi drôle avec des trucs aussi loufoques et barrés. Il faut un grand talent pour ça.
Il y a 3 ans, Pierre Ninet, vous avez signé avec la plus grosse agence d'artistes à Los Angeles, United Talent Agency. Vous êtes toujours sous contrat avec eux ?
Oui, bien sûr, j'ai toujours mon agent là-bas. J'ai changé, j'étais chez une encore plus grosse agence, qui s'appelle CAA avant. Et après, je suis allé chez UTA, parce que c'était peut-être trop gros comme agence CAA. Pour faire court, c'est vraiment des empires aux États-Unis qui ont tous les acteurs, Brad Pitt, Angelina Jolie.
Ouais.
Et moi, je suis allé chez UTA, j'ai trouvé un agent européen qui parle aussi français, que j'aime beaucoup, parce qu'il comprend mieux, je pense, la réalité de ce qu'on vit ici, et la beauté aussi des films qu'on fait ici.
Vous avez tourné en anglais aux côtés d'Antonio Banderas, sous la direction de Hugh Hudson, à qui on doit les chariots de feu. Mais je crois savoir que c'est sur plutôt un plateau de Scorsese que vous aimeriez goûter à l'aventure américaine.
Qui ne voudrait pas c'est plutôt la question, quoi. Je n'ai jamais croisé un gars qui m'a dit...
Alors,
ouais, non, Scorsese.
Quoi, votre agent américain pour l'instant.
Mon agent américain, oui. Il me dit « Hey, amazing
!» Oui, ils disent tous « amazing ».
Awesome. Non, mais moi, c'est sûr qu'il va tourner aux États-Unis, Pierre.
Anaïs me prédit ça dans le carte.
Ouais, je prédis ça.
Vous
je pense
sentez,
qu'il est un peu américain, je pense. Il
en
nous
quoi
ment.
En quoi
il a un truc américain, je sais pas. Il a dans son professionnalisme, dans son rapport au jeu.
Son côté très fake avec
non.
tout le monde.
Non, mais je le sens vraiment, mais appelé par les States.
C'est une industrie qui m'a fait très envie un moment, mais et j'irai avec grand bonheur s'il y a des choix de rôle.
Vous allez me dire que vous avez réatterri, c'est ça, par rapport au rêve américain ?
Oui, non, mais disons que j'ai fait beaucoup de ce qu'ils appellent des general meetings là-bas, qui genre, sont des rendez-vous qui ne servent quasiment à rien, à part si t'en cours vraiment 200 dans toute la ville, tous les jours, pour faire connaître ton nom, circuler dans les bureaux en espérant qu'un jour, il y aura peut-être un petit rôle de Frenchie dans un film qui te fera... Enfin, faut tellement que je reparte à même pas zéro. C'est même pas zéro. C'est une ville entière où tout le monde veut être acteur. Donc, tu repars à moins 15. Donc, pourquoi pas amener des projets dont j'ai envie, discuter des projets avec mes agents. Voilà. Mais je vais pas aller courir tous les castings à Los Angeles. J'en ai même pas l'envie parce qu'on me propose des rôles magnifiques ici et je suis très heureux et je me sens très bien.
Eh bien, nous, on est très heureux de vous garder. On s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite Pierre Ninet et Anaïs de Moustier.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin, les comédiens Pierre Ninet et Anaïs de Moustier se racontent pour quelques minutes encore.
Ils portent un film qui fera date. Ils sont deux, Pierre Ninet et Anaïs de Moustier, Sauver ou Périr, réalisé par Frédéric Tellier, dont Europe 1 est fier d'être partenaire. Alors Pierre Ninet, vous êtes sûrement le seul acteur qui, dans sa carrière, s'est vu remettre par plusieurs casernes de sapeurs-pompiers, dont celle d'ailleurs des pompiers de Paris, une médaille d'honneur. Ça s'est passé comment, ça ?
Oui, ça s'est passé de façon très surprenante. Ils m'ont invité dans la grande cour des Invalides lors de l'anniversaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et la ministre des Armées et le général de la brigade m'ont remis un titre honorifique de première classe. Voilà, j'étais hyper touché. C'est un titre que j'ai refusé au début, parce que je ne me sentais pas du tout légitime de recevoir quoi que ce soit. Et puis ils ont insisté.
Et alors, comment ont-ils argumenté lorsque la première fois vous avez refusé ?
Ils m'ont dit que c'était pour, on va dire, rendre hommage à un film qui les met en lumière, et qui met en lumière les héros du quotidien, et qui va les aider à véhiculer plus précisément ce qu'est leur métier à travers un médium où eux ne pratiquent pas du tout le cinéma, enfin, où ils n'ont pas forcément accès. Donc, et puis, ils ont dit, parce que aussi, ils nous ont fait comprendre que les recherches qu'on avait fait pendant 3 ans pour alimenter le film, donner un film assez réaliste. Et donc, je pense qu'ils étaient contents que même des gens, et puis peut-être même des gens proches d'eux, puissent voir ça en images. Sur le grand écran.
Alors, je disais au début de cette conversation que Sauver ou Périr est un film qui va faire date dans votre carrière. Mais est-il vrai que depuis son tournage, qui remonte donc à peu près à 1 an et demi, vous n'avez pas repris encore le chemin des plateaux de cinéma, parce que ce film a mis la barre très haute et vous attendez le scénario qui vous donnera autant d'adrénaline, c'est ça ?
Je ne sais pas si la barre est très haute, mais c'était juste très personnel. J'avais besoin de ratterrir un peu après Sauver ou Périr. Prendre du temps, sortir de ce rôle et puis en désirer un autre, effectivement. Et ça prend un peu de temps. Et là, je suis très heureux, je vais faire un film avec Nicole Garcia qui va réaliser une très belle histoire d'amour un peu noire et passionnante et passionnée avec Stacy Martin. Et on va faire ça très bientôt.
Très bientôt. Bon, mais alors de quoi est faite la vie de Pierre Ninet quand il ne joue pas ?
Un peu comme tout le monde, je mange des pâtes, je voyage, j'aime bien faire du surf, j'adore le surf, j'ai vraiment une nouvelle addiction depuis 4-5 ans pour le surf, le basket, je regarde beaucoup de la NBA, j'adore ça, j'écris pour les gens que j'aime et je commence un peu à produire aussi avec une boîte de production que j'ai montée, voilà.
Vous voyez que c'est pas du tout anodin tout ça.
Non, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout,
Vous, entre deux tournages, Anaïs de Moustier, il paraît que vous prenez des cours de chant lyrique, toujours, ou vous avez arrêté ?
Non, là ça fait un petit moment parce que j'étais en tournage à Lyon, donc je n'ai pas pris de cours de chant, mais oui, sinon j'en prends dès que je peux.
Donc vous allez recommencer ?
Oui, je vais recommencer.
Mais pourquoi le lyrique ?
Le lyrique parce que c'est une manière de chanter qui est ultra libératrice. Ça, vraiment, je le conseille à tous les êtres humains de la planète. C'est
comment
vraiment
on fait
très
c'est
agréable.
Quoi,
on peut vraiment aller chanter. Je veux dire, moi, à la base, j'avais pris des cours de chant lyrique parce que j'avais des nodules sur les cordes vocales. Donc, c'était vraiment thérapeutique. C'est pour réparer quelque chose. Donc, aucun son ne sortait au départ. Et puis, petit à petit, j'ai découvert en fait ma voix. Et en fait, c'est fascinant parce qu'on découvre qu'on a une puissance incroyable.
Quelle est votre tessiture ?
Je suis mezzo.
Oui.
Mais j'ai une voix de femme énorme, donc je suis un peu un animal de foire pour ma prof de chant, parce que j'ai une voix comme si j'étais obèse en fait.
Mais tu peux pas nous faire une carrière de diva.
Non, là je peux vraiment pas du tout là.
Ah ok,
bon,
ça marche.
Pierre Ninet, moi on insiste.
C'est tellement fort.
Non, mais si tu t'écartes.
Ah non. Ça n'était pas moi.
Prête pour l'escalade Milan.
Ce auditeur, c'est okay, Pierre qui vient moi. De sortir ce son.
Bon, en tout cas, atroce. Le chant lyrique donne de l'autorité à la jeune femme très gracile que vous êtes, c'est
ah,
ça.
Le chant lyrique donne de la force, fait beaucoup de bien, vraiment très agréable.
Bon, de l'autorité, de la force, venez-vous de dire, de l'audace, du courage, il en faut pour être pompier. Vous savez, Anaïs de Moustier, qu'un sapeur-pompier civil sur 7 est une femme.
Non, je savais pas cette, je ne connaissais pas cette statistique.
Et ben
mais
c'est impressionnant.
Ouais, il y a des femmes, il y en a plein, on a rencontré plein.
Ouais. Ouais.
Elles sont très courageuses.
Vous en avez rencontré en fait.
Ah oui, on a rencontré la force de.
Quand vous vous êtes retrouvés en immersion pour préparer le film.
Là, et puis dans les avant-premières aussi, beaucoup de pompiers de France et de femmes pompiers. Ouais, bien sûr, c'est magnifique. Il faut que le métier s'ouvre de plus en plus. C'est un métier quand même beaucoup d'hommes, donc il y a peut-être une double pression pour les femmes qui l'exercent, mais on en a rencontré plein. Elles étaient toutes absolument géniales, hein, franchement. Toutes les villes qu'on a fait, toutes les avant-premières.
Qu'a-t-on oublié de se dire ? Pierre Ninet,
je
Anaïs
t'aime.
De Moustier. On se dit
je
ça.
Je vous aime. On oublie bon. Trop souvent. Souvent, sur son lit de mort, c'est ce qu'on regrette de ne pas avoir assez dit. Donc, à tout hasard, je vais le dire quand même.
Voilà. Et puis, c'est franchement ce qu'ils savent se dire de manière magistrale dans Sauver ou Périr, qui rend hommage donc à tous les héros anonymes qui partent à l'assaut du feu. Film qui est en salle depuis mercredi et qu'il ne faut pas rater. Merci à vous, Pierre Ninet. Merci Anaïs de Moustier.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite une très longue et magnifique route.
Merci.
Merci beaucoup.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient demain, donc à 15h, avec un nouvel invité, Laurent Alexandre, neurochirurgien, fondateur de Doctissimo et auteur d'un ouvrage, La guerre des intelligences, dans lequel il explique comment, dans un monde déjà dominé par l'intelligence artificielle, l'homme va devoir gérer sa survie et ne pas subir son futur. Vous restez avec nous dans un instant. On joue avec Laurence Boccolini et ses invités. Europe 1.